Tereos, géant industriel de la betterave sucrière, a annoncé la fermeture de la sucrerie d'Écodœuvre le 8 mars, entraînant la suppression de 123 postes. Le géant betteravier explique sa décision par la baisse de volume de betteraves engagées qui s'explique par des raisons agronomiques, telles que la jaunisse de la betterave.
Cette décision fait notamment suite à l'arrêt des néonicotinoïdes. Ces insecticides, qu'on surnomme les tueurs d'abeilles, sont extrêmement efficaces contre la jaunisse de la betterave. Autorisé depuis les années 90, ce pesticide agit sur le système nerveux des pucerons, responsable de la jaunisse, mais aussi des autres insectes, y compris les plus utiles comme les abeilles et autres pollinisateurs. C'est ce que nous expliquait une membre de l'association Génération Future dans le premier épisode que vous pouvez retrouver sur notre site ou sur les plateformes de streaming.
Mais ce pesticide est aussi redoutablement efficace. Transporté par la sève à des doses très faibles, il pénètre les tissus de la plante. Ils sont aussi utilisés de manière préventive via une technique d'enrobage. Pour de nombreux agriculteurs de la filière betteravière, l'arrêt des néonicotinoïdes est une décision abrupte aux conséquences dramatiques pour le métier.
Désormais, il ne sera plus possible pour les agriculteurs d'utiliser l'insecticide contre la jaunisse de la betterave, alors même que les surfaces cultivées de betteraves ont baissé de 7%. Le 8 février, des betteraviers défilaient avec 500 tracteurs à Paris pour protester contre l'interdiction des néonicotinoïdes. Face à la mobilisation des agriculteurs et pour les inciter à planter, l'État leur a promis une indemnisation totale de leurs pertes en cas de jaunisse en 2023. Une décision qui ne suffit pas à rassurer les agriculteurs qui craignent pour leur métier.
Nous avons discuté avec Guillaume Mulins, agriculteur à Nouvelle-Église, qui craint pour l'avenir de la filière betteravière et attend un meilleur accompagnement de l'État face à l'arrêt des néonicotinoïdes.
Je m'appelle Guillaume Mulins, je suis agriculteur à Nouvelle-Église dans le Pas-de-Calais. J'ai 41 ans, je cultive à peu près sur 80 hectares. Je suis installé depuis 2011, donc c'est une reprise de ferme familiale. Et donc ici, on cultive principalement du blé, mais aussi de la betterave sucrière, de la pomme de terre de consommation, du lin textile et du colza. Voilà la culture principale.
Et que représente la betterave sucrière parmi tout ce que vous cultivez en termes de pourcentage ?
Alors, sur les 80 hectares, j'ai à peu près... tous les ans, à peu près 12 hectares de betteraves.
L'arrêt des néonicotinoïdes vient d'être à nouveau annoncé par la CJUE. Vous, concrètement, qu'est-ce que ça va changer dans votre agriculture ?
Techniquement, ça va changer déjà une première chose. C'est qu'avant, les néonicotinoïdes étaient utilisés en enrobage de semences. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de pulvérisation. La betterave était vaccinée pendant à peu près 90 jours, on va dire ça comme ça. Désormais, pour protéger ma betterave contre les arrivées de pucerons vecteurs de jaunisse, je vais devoir utiliser, si besoin est, si la pression est là, des insecticides foliaires. Bon, c'est pour de gaieté de cœur que je mets des insecticides foliaires, mais c'est malheureusement le seul moyen technique efficace aujourd'hui pour gérer la jaunisse.
Vous pouvez expliquer ce que c'est que des insecticides foliaires ?
Donc, moi, je vais prendre mon pulvérisateur et je vais utiliser un produit phytosanitaire qui va tuer les pucerons, qui va respecter les auxiliaires. C'est quand même des trucs qui sont quand même pas mal faits. Et avec ça, donc les pucerons ne vont pas piquer ma betterave et ne vont pas inoculer la jaunisse. La jaunisse a toujours existé, on a eu différents moyens, mais c'est depuis les années 90 qu'on a les néonicotinoïdes, qu'on a vraiment un moyen de lutte efficace. Et j'ai toujours connu les néonicotinoïdes. Donc, sans néonicotinoïdes, et on l'a bien vu en 2020, ça peut avoir des effets quand même assez néfastes au niveau de la performance dans les champs. Et donc, en 2019, on avait déjà plus de néonicotinoïdes. Ça s'est plutôt bien passé. 2020, on a eu vraiment une grosse pression. Grosse pression qui s'est traduite par des pertes jusqu'à moins 70% de rendement chez les agriculteurs concernés. Et au niveau national, environ 30% de pertes. Cette année-là, on ne va pas se mentir, je n'ai pas été très concerné. Mais la jaunisse, malheureusement, la jaunisse peut frapper selon les années à différents endroits.
Le principal obstacle au développement de variétés de betteraves résistantes au virus de la jaunisse est qu'il en existe 4 virus différents. Il faudrait donc trouver des variétés résistantes pour tous ces virus. Les autres solutions avancées sont également en cours d'expérimentation.
Vous êtes élu Tereos localement. Qu'est-ce que ça signifie? Vous faites quoi pour l'entreprise?
Moi, je suis élu au sein de ma coopérative. Donc, c'est une entreprise qui nous appartient, qui transforme nos betteraves. Mon rôle, c'est de remonter les problèmes à la coopérative et aussi de... s'il y a des voisins qui ont des questions, des choses comme ça, bah, moi, je peux les aider aussi.
Donc, la fermeture des codeuvres, vous en pensez quoi elle est due à quoi?
Pour moi, ça reste toujours un drame. Ici, il y avait une sucrerie ici qui a fermé dans les années 2000 qui s'appelait Pont d'Arbre. Donc, c'est toujours un petit drame local parce que les sucreries sont dans des zones rurales. Et donc, à chaque fois que vous fermez une sucrerie, c'est des emplois perdus avec souvent un remplacement difficile. Mais mon principal mandat au niveau Nord-Pas-de-Calais, c'est que je suis président de la CGB Nord-Pas-de-Calais. Donc, je représente les betteraviers pour le Nord-Pas-de-Calais.
Et justement, ces betteraviers, en ce moment, qu'est-ce qu'ils pensent de l'arrêt des néonicotinoïdes? La plupart trouvent que c'est une bonne chose ou s'en plaignent?
Disons que c'était... moi, personnellement, je trouvais que c'était une solution qui était efficace. Ça, c'était même très efficace, donc c'était bien. Financièrement, c'était assez intéressant. Ça ne coûtait pas très cher. Sorti de ça, et brutalement... Parce que nous, on avait demandé à peu près une dérogation jusqu'en 2025, 2025-2026, pour être sûr d'avoir des variétés tolérantes à la jaunisse. Notre porte de sortie, ça va être ça, ça va être des semences tolérantes. On avait demandé 2025-2026, bon, on avait eu 2023, et finalement, en 2022, c'était la dernière année avec les néonicotinoïdes. Donc nous, le problème, c'est que ça nous met en risque, et... En cas de forte attaque jaunisse, à aujourd'hui, malgré toutes les recherches qui sont menées, on n'a pas certitude qu'on va réussir à endiguer en cas de forte pression. On ne va pas forcément avoir la capacité de réagir et de bien protéger nos betteraves.
Et vous avez dit que vous auriez aimé avoir un peu plus de temps pour effectuer cette transition du coup, la suppression des néonicotinoïdes. C'est ça?
Oui, donc ce qu'il faut, il y a le temps politique et le temps de la recherche agricole est différent. Et les semenciers ont commencé à chercher en 2016. Ils en ont jusqu'à peu près 2026 pour trouver vraiment une solution.
Et concrètement, ils ont des pistes à exploiter?
Ils ont des pistes, ils avancent. Depuis 2017, ils testent des génétiques. Et ils travaillent dessus, mais il faut juste du temps. On est quasiment sûr qu'en 2025-2026, on aura une variété tolérante et performante. Parce que si elle est tolérante et puis pas performante, nous, ça ne nous intéresse pas. Donc, il faut les deux. Là, maintenant, les betteraviers, ils voient qu'il y a un risque à mettre de la betterave. Entre la jaunisse, les prix, parce qu'on a eu quand même 2019, 2020, 2021 avec des prix quand même très très bas. Des risques de prix, des risques de rendement. Les agriculteurs se désintéressent, se désengagent de leur sucrerie, mettent moins de betteraves. Et parallèle à ça, on a quand même un rendement moyen qui est plutôt à la baisse. Il faut savoir que l'usage des néonicotinoïdes, quand il était simplement autorisé sur betteraves, l'usage des néonicotinoïdes était retiré à environ 95%. Parce qu'il était sur les betteraves, mais il était bien sûr aussi sur le blé et sur d'autres cultures. Donc là, c'était uniquement en enrobage de semences, donc pas de pulvérisation foliaire. Et de plus, on avait des contraintes sur les cultures suivantes pour ne pas avoir une culture mellifère, pas une culture qui attire les abeilles. Pour nous, au niveau danger, du danger... dans les champs et pour la biodiversité, on trouvait que c'était très très limité. Parce que malheureusement, tout ce qu'on doit produire, il y aura un impact. Donc on essaie toujours de limiter l'impact. Mais c'est pas toujours... il faut trouver le bon compromis à chaque fois. Et je suis sûr qu'on aura des problèmes, des solutions à ça. Mais malheureusement, à chaque fois, ça demande du temps. En 2020, parallèle à la réhomologation temporaire des néonicotinoïdes, on a lancé entre les fabricants, les betteraviers et l'État un plan national de recherche et d'innovation, le PNRI, qui a étudié toutes sortes de solutions qui paraissaient intéressantes. Bon, c'était principalement des agriculteurs qui avaient remarqué des choses. Et donc, sorti de ça, on a remarqué des choses comme des plans de campagne, c'est-à-dire qu'on sème deux cultures en même temps. On détruit une culture assez rapidement et on laisse que la betterave. Donc, ça a un effet. Bon, il y a plusieurs choses combinées, mais malheureusement, naturellement, on n'arrive pas à trouver quelque chose d'aussi efficace.
Mais justement, j'allais dire, l'État, lors de la jaunisse de la betterave, il me semble proposer une sorte d'aide pour compenser les pertes. Est-ce que c'est d'actualité, ça, aujourd'hui, avec l'arrêt des néonicotinoïdes?
Donc, le ministre s'est engagé à compenser la jaunisse s'il y a. Bon, ça, c'est en cours d'élaboration, je veux dire. Mais dans tous les cas, nous, on préfère... déjà, un, ça sera que pour 2023. Et deux, nous, on préfère toujours produire et bien vendre notre récolte que de vivre de compensation. C'est pas notre métier, ça. Mais nous, Elisabeth Borne et puis Marc Fesneau, ils commencent à parler dans ce sens-là, c'est qu'ils vont faire attention à interdire sans solution. Et ça, c'est le drame qu'on vit aujourd'hui, c'est que, ok, les phytos, c'est pas la panacée et il faut en utiliser minimum. Mais de là à en sortir complètement et aussi brutalement que certains souhaiteraient, on va avoir des petits drames ruraux comme la sucrerie des Côtes-d'Or. On va abandonner des cultures, ou comme la cerise, on s'interdit un insecticide, mais on s'interdit pas d'importer cette même cerise d'Espagne avec ce même insecticide. Donc, on ne veut pas utiliser des méthodes, mais on ne s'interdit pas d'importer une culture, une production qui a été cultivée avec ces mêmes méthodes. Donc nous, ça, on trouve ça complètement ubuesque.
Dans l'épisode précédent, Jean-Louis Proust insistait sur l'importance de travailler avec le vivant et encourage les agriculteurs à se former vers le bio. Mais la réalité est plus complexe, selon Guillaume Hulens.
Le problème, c'est que tous les enjeux agricoles, souvent, sont compliqués et interliés. On ne peut pas dire d'arrêter une betterave d'un seul coup. Ça a plein d'impact sur l'emploi, mais ça crée aussi, par exemple, l'engrais pour nos exploitations. Ça crée, dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est assez important, de la nourriture pour l'élevage. Donc, tout est lié. Ça crée du sucre. Moi, je livre à Lillère, donc c'est à 50 km. Et 50 km plus loin, il y a Coca-Sox. Qui vous fournit en coca. Je ne suis pas un grand buveur de coca, mais au moins on l'a ici, quoi. On a par exemple le safre qui est sur la région lilloise, qui fait de la levure. C'est une usine mondialement connue et c'est présent parce qu'il y a de la betterave et il y a des mélasses et de la vinasse. C'est avec ça qu'ils multiplient leur levure. De la betterave ou d'autres cultures bio, c'est du... In fine, on peut faire beaucoup de désherbage mécanique, mais à la fin, il faut aller manuellement. Et ça passionne pas les fous.
Créer des vocations qui respectent un peu l'environnement, du coup, ça vous paraît un peu...
Ouais, mais quand vous avez fait une semaine, 7 heures par jour, du travail à la main, et puis, bon, et des fois, il fait beau, c'est le temps calme, mais des fois, il fait froid, des fois, c'est la tempête, des fois, il pleut un peu. Bon, les gens, ils en ont envie de marre. Et quand on manque 100 000 informaticiens en France, alors que c'est un boulot qui pourrait intéresser des gens, je me dis que aller travailler dans les champs à longueur de journée, ça n'intéresse pas forcément beaucoup de monde. Donc, les bio, ils se font oublier du jour au lendemain. Et les premiers décisionnaires, c'est pas les politiques, hein, c'est les consommateurs. Nous, on s'adaptera. Mais il ne faut pas nous dire « faites ça ». Et puis après, 5 ans après ou 3 ans après, on part dans l'autre sens. On peut pas tout.
Face à l'inquiétude de Guillaume Hulens, il paraît urgent d'accompagner le secteur de la betterave dans son virage vers une agriculture plus respectueuse de l'environnement. D'autant plus que dans les Hauts-de-France, les concernés par ces dérogations étaient nombreux. 3000 agriculteurs étaient utilisateurs des néonicotinoïdes. Le nord de la France fait partie de 7 régions où la betterave sucrière est produite. Avec une dizaine de sucreries, dont la plupart appartiennent au géant Tereos, 30 000 emplois indirects sont contenus dans ce secteur selon le Conseil régional des Hauts-de-France.
Alors que faire ? En 2020, alors que les dérogations venaient d'être accordées, l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, l'ANSES, était chargée d'identifier et de proposer des alternatives efficaces pour faire face à la jaunisse. En mai 2021, elle a apporté 22 propositions. Si la plupart d'entre elles ont été critiquées pour leur manque de précision ou d'expérimentation, le président de l'ANSES explique qu'en combinant ces alternatives, des solutions sont bel et bien envisageables.
Cependant, elles ne pourront jamais atteindre l'efficacité de l'insecticide et reposent parfois sur l'utilisation d'autres pesticides. Si l'on va au-delà de l'aspect financier, qui contribue aussi à marchandiser la nature, n'est-il pas l'heure de revoir notre rapport à l'agriculture ? Surtout, si l'on veut que cela fonctionne, n'est-ce pas au consommateur de changer ses habitudes pour soutenir une agriculture durable et écologique ?
Le débat reste ouvert. Merci d'avoir écouté cet épisode d'On perd le Nord, le podcast sur les enjeux environnementaux et climatiques dans le Nord et le Pas-de-Calais. Cet épisode a été réalisé par Fanny Lardillier et Sarah Kelifi. Si vous voulez retrouver la première partie de cet épisode ou en découvrir d'autres, vous pouvez nous retrouver sur les plateformes de streaming et sur le site internet onperlenord.fr. Pour du contenu complémentaire, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram et Facebook.